Alors, bonjour à ceux que j'ai pas salués. Donc, si ça a bugué au début du chant, c'est de ma faute, hein. C'était moi qui a mal fait les choses. Juste avant de commencer, j'aimerais m'incliner dans la prière. Seigneur, merci pour ce temps que tu nous donnes ensemble encore à ouvrir la parole de Dieu. Et Seigneur, c'est ta parole qui nous nourrit. C'est par elle que tu te révèles. Et Seigneur, nous savons que toutes choses viennent de toi. Et nous prions que tu nous bénisses encore par les Écritures. Seigneur, ta parole ne revient pas à toi sans effet. C'est toi qui le dis. Seigneur, elle est puissante, elle est vivante. Qu'elle nous fasse du bien ce matin et qu'elle nous touche et nous parle. Nous te le demandons par Jésus-Christ. Amen. Alors ce matin, on va partir dans le livre des Nombres. Donc le livre des Nombres explique ce qui s'est passé pour les Juifs juste après qu'ils aient quitté l'Égypte. Donc si vous prenez les livres de la Bible, les cinq premiers livres de la Bible, c'est la Torah ou le Pentateuque. Et dans la Torah, il y a plusieurs livres, donc il y a la Genèse, il y a l'Exode. L'Exode, c'est la sortie d'Égypte. Donc c'est avec Moïse, on connaît les 10 commandements, etc. Donc leur sortie d'Égypte. Et quand on arrive dans le livre des Nombres, là, eh bien, c'est tout ce qui s'est passé dans le désert. Donc c'est la même période, mais c'est entre l'Égypte et le pays de Canaan, où finalement, eh bien, Israël devait rentrer. Alors c'est intéressant parce que le livre des Nombres, on l'appelle Nombres, parce que c'est dans cette période-là que Dieu a demandé de faire le dénombrement du peuple. Donc ils ont compté tous les hommes qui avaient plus de 20 ans. Et du coup, on a appelé ce livre le livre des Nombres. Mais c'est intéressant de voir que le nom du livre en hébreu, c'est Bemidbar. Et ça signifie « au désert ». Au désert. Et en fait, c'est vraiment ça. Ça nous parle du désert, hein, tout ce qui s'est passé pour les Juifs à ce moment-là. Alors, j'aimerais vous poser une question, c'est êtes-vous dans un désert aujourd'hui? Êtes-vous dans un désert, hein? Le désert d'une vie qui n'avance pas, le désert d'une vie qui est sèche, aride, sans eau. Quand on lit tout l'Ancien Testament, on s'aperçoit qu'il y a plein d'images. En fait, ce sont des histoires qui ont été vécues par des hommes d'autrefois, et notamment les Juifs. Et au travers de toutes ces histoires, eh bien, on voit qu'il y a des images, il y a des leçons spirituelles, des vérités spirituelles que Dieu nous donne pour nous nourrir, nous, aujourd'hui, chrétiens du 21e siècle. Alors, c'est ce que Dieu a dit par la bouche de l'apôtre Paul dans le livre aux Corinthiens, il a dit « Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. » Donc c'est plein d'exemples, plein de circonstances de vie, de décisions, de choses qui ont été faites pour nous enseigner, nous, chrétiens. Et lorsqu'on lit l'histoire des Juifs, donc qui vont sortir de l'esclavage de l'Égypte, on découvre qu'il y a une image du salut en Jésus-Christ, le fait d'être sauvé par Jésus-Christ. L'Égypte, dans la Bible, à chaque fois, c'est une image du monde. Pourquoi ? Parce que l'Égypte, ça représente l'idolâtrie, ça représente la débauche, ça représente tout le paganisme, le péché, les excès, ça représente toutes ces choses. Et c'est aussi un lieu d'esclavage. Les Juifs étaient esclaves en Égypte. Et donc derrière l'Égypte, eh bien c'est le monde qui est représenté. Et de la même manière que Dieu a sorti Israël de l'esclavage, du paganisme, de tout ce qui était autour de lui en Égypte, eh bien de la même manière Dieu veut sauver les hommes et les délivrer d'un monde qui est païen, d'un monde qui est contre Dieu, d'un monde qui aime le péché, d'un monde qui ne se juge pas lui-même, hein, Francisco en parlait un petit peu, qui est hypocrite, hein, qui parle de paix, il n'y a pas de paix, qui parle d'amour, il n'y a pas d'amour, et qui fait toutes sortes de choses qui sont malheureusement préjudiciables à lui-même. Et donc Dieu veut nous sortir par Jésus-Christ, hein, par la foi en Jésus-Christ, hein, quand on croit en lui, il nous sort du monde et il nous amène ailleurs, et c'est ce qu'on va voir un petit peu ce matin. Donc, quand on prend le passage de la mer Rouge, Donc, puisque les Juifs sont sortis d'Égypte, ils ont traversé la mer Rouge, hein, la mer c'est ouverte, hein, et puis ils ont passé au travers de la mer. Il y a la délivrance du péché, et quand ils sont arrivés de l'autre côté, vous lisez dans l'Exode, c'est l'euphorie, c'est la joie, ils exultent. Hein, ils étaient prisonniers là pendant plusieurs décennies, et d'un seul coup, c'est la liberté, ils sont libres. Et c'est le bonheur. Et ça, c'est aussi une image, finalement, de notre salut. Quand on vient à Jésus-Christ, on l'accepte dans notre vie, pouf, d'un seul coup, on exulte, hein, on est sur un nuage, et c'est le bonheur. Et donc, les Juifs qui sont sortis de l'Égypte arrivent dans le désert du Sinaï, et là, ils vont devoir apprendre à dépendre de Dieu sur tout, pour tout. Dépendre de Dieu en absolument tout. Il va y avoir donc ce qui était prévu, hein, une petite traversée du désert, forcément, le désert du Sinaï. Et puis après, ils devaient parvenir au pays de Canaan. Le pays de Canaan, c'était le pays de la promesse. C'était le pays de l'abondance. C'était un pays où coule le lait et le miel. Un pays où ils allaient enfin pouvoir se reposer, enfin pouvoir cultiver la terre et jouir de tous les fruits pour eux-mêmes, etc. Dieu avait déjà promis ce pays à Abraham, hein, puisqu'il avait dit à Abraham, je vous cite cette promesse, il avait dit « Lève les yeux ». Et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'orient et l'occident, car tout le pays que tu vois, je te le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Lève-toi, parcours le pays dans sa longueur, dans sa largeur, car je te le donnerai. Donc ça, c'était une promesse qui avait été donnée à Abraham. Promesse, je vais te donner ce pays à toi et à ta postérité. Et là, eh bien, ils sont aux portes du pays de Canaan, ils viennent de sortir de l'Égypte, ils ont traversé un peu le désert, et puis ils vont avoir l'occasion de rentrer dans la promesse, en fait, dans le pays que Dieu leur donne. Et donc, j'aimerais maintenant prendre avec vous le livre des Nombres, et on va commencer notre lecture au chapitre 13, versets 1 à 3. Nombres 13, versets 1 à 3, les trois premiers versets. L'Éternel parla à Moïse et dit « Envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan que je donne aux enfants d'Israël. Tu enverras un homme de chacune des tribus de leur père. Tous seront des principaux d'entre eux. » Moïse les envoya du désert de Paran. D'après l'ordre de l'Éternel, tous ces hommes étaient chefs des enfants d'Israël. Et puis on va lire un petit peu plus bas, on va sauter. Lire versets 21 à 25. 21 à 25. Ils montèrent et ils explorèrent le pays, depuis le désert de Tsin jusqu'à Rehob, sur le chemin de Hamath. Ils montèrent par le Midi et ils allèrent jusqu'à Hébron, où étaient Ahiman, Shéchaï, Talmaï, enfants d'Anak. Hébron avait été bâti 7 ans avant Tsoan en Égypte. Ils arrivèrent jusqu'à la vallée d'Eshkol, où ils coupèrent une branche de vigne avec une grappe de raisin qu'ils portèrent à deux au moyen d'une perche. Ils prirent aussi des grenades et des figues. On donna à ce lieu le nom de vallée d'Eshkol, à cause de la grappe que les enfants d'Israël y coupèrent. Ils furent de retour de l'exploration du pays au bout de 40 jours. Donc, 12 chefs, de chacune des tribus d'Israël montent pour aller visiter ce pays de Canaan et ils devaient ramener toutes sortes de renseignements. Donc Dieu leur avait dit, et Moïse, hein, vous allez chercher mais qui habite dans ce pays? Est-ce que il est fort, il est faible? Est-ce qu'ils sont en petit ou en grand nombre? Est-ce qu'ils sont bons? Est-ce que le pays est bon ou mauvais? Quel type de ville? Ouverte ou fortifiée? Quel type de terrain? Gras ou maigre? Y a-t-il des arbres ou pas? Donc, ils devaient aller glaner tous ces renseignements et regarder un petit peu tout ce qui se passait dans ce pays de Canaan. Et ils vont revenir, et là, ils vont faire leur compte-rendu. Donc, Nombre 13, et on va lire les versets 26 et 27. Nombre 13, versets 26 et 27. À leur arrivée, Ils se rendirent auprès de Moïse et d'Aaron et de toute l'assemblée des enfants d'Israël, à Kadès, dans le désert de Paran. Ils leur firent un rapport, ainsi qu'à toute l'assemblée, et ils leur montrèrent les fruits du pays. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. « Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés, à la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel, et en voici les fruits. » Et c'est exactement tel que Moïse leur avait dit alors qu'ils allaient sortir d'Égypte. Dieu leur avait dit, au travers de Moïse, « Je vais vous sortir d'Égypte et je vais vous emmener dans le pays de Canaan, un pays où coule le lait et le miel. » Ils reviennent, ils font leur rapport, c'est exactement comme ça. Nous l'avons vu, c'est un pays où coule le lait et le miel. Quand vous pensez à ça, qu'est-ce que ça signifie? Un pays où coule le lait, eh bien, ça veut dire que y a des brebis, il y a des pâturages, il y a de l'herbe verte, ça veut dire qu'il y a de la pluie. Ils sortaient du désert, un pays où il pleut, c'est merveilleux. Un pays où il y a de l'eau, un pays où il y a du miel. Donc il y a des abeilles, il y a des arbres fruitiers. Voilà, c'est un pays d'abondance, un pays de richesse, un pays qui va être merveilleux. Et après l'esclavage, ils en avaient vraiment besoin. Ils soupiraient après ça. Un pays où ils puissent se reposer et enfin pouvoir se multiplier, être heureux et dans le repos. Le pays de Canaan, pour nous chrétiens, quand on a accepté Jésus-Christ, quand on l'a saisi, il est entré dans notre vie, dans notre cœur, c'est le pays de la marche par l'esprit. C'est le pays du repos, ça. Vraiment. C'est une marche dans l'abondance. Quand on marche avec Jésus-Christ, c'est là où on est vraiment heureux. Jésus a dit, « Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie. » Et qu'elle est en abondance. Et même le mot parfois est traduit par surabondance. Je suis venu afin que les brebis, ceux qui croient en moi, aient une vie qui surabonde, une vie riche, une vie heureuse en moi. C'est pas une vie pauvre spirituellement, c'est pas une vie faiblarde, triste, qui se traîne, c'est pas une vie de misère, c'est pas une vie qui se poursuit dans le péché, dans la pratique du péché. Ce n'est pas une vie de défaite ou une vie d'esclavage comme ça. Non, ce n'est pas ça que le Seigneur propose. Ce qu'il offre à ses enfants, eh bien, c'est cette image derrière le pays de Canaan. C'est une vie abondante, une vie riche, une vie grasse, une vie où il y a plein de fruits. Une vie belle, une vie de victoire. Alors les espions ont commencé à faire leur description de ce beau pays où coule le lait et le miel. Mais ça va se poursuivre avec un « mais ». Oui, à la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. Mais. Mais. Et ce matin, j'aimerais vous poser la question, y a-t-il un « mais » dans votre vie? Vous savez, il y a Dieu qui dit ça, et les promesses et les vérités. Oui, mais. Un « mais ». Regardez versets 28 et 29. 28 et 29. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Les Amalécites habitent la contrée du Midi. Les Éthiens, les Jébusiens, les Amoréens habitent la montagne. Les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Alors certes, il y a l'abondance. Je l'entrevois, c'est vrai. Il y a l'abondance, mais ça ne va pas être facile. Ça ne va pas être facile. Les peuples qui y sont, ils sont puissants, ils sont forts. Les villes sont fortifiées, elles sont imprenables, c'est impossible. On ne va jamais pouvoir traverser ces murs. Il y a même des géants, les enfants d'Anak. Vous vous souvenez, on a vu ça il n'y a pas très longtemps avec Gérald. Et puis, ils sont nombreux, ils sont partout. Ils sont au midi, au nord, ils sont dans les montagnes, ils sont le long des mers, ils sont partout. Ils sont innombrables, les ennemis sont partout. Et il y a une réalité que tout chrétien doit comprendre. Quand on vient à Jésus-Christ, c'est que la vie abondante, la marche par l'esprit, la vie de victoire, où on triomphe de ses péchés, on est libéré petit à petit de l'esclavage du péché, elle est devant nous, elle est à portée de main, si je peux dire. C'est un beau pays, mais il faut livrer des batailles. Il y a des batailles. Au départ, le salut, c'est merveilleux. Et c'est vrai, Voilà, si vous vous souvenez comment vous avez accepté Jésus-Christ, ou si vous vous souvenez comment quelqu'un que vous connaissez a accepté Jésus-Christ, vous avez dû voir une euphorie, un bonheur, et ça c'est une réalité. Quand on est délivré, quand on est sauvé, oh, ça y est, on est déjà au ciel. Et puis la triste réalité de la chair revient. C'est-à-dire que on est au Seigneur, c'est vrai, mais la mauvaise nature, elle est toujours là. Le péché, il est toujours là. Hein? Il réapparaît encore en nous. Et Dieu ne nous sauve pas pour une vie de tristesse, une vie d'échec, comme je le disais, hein? Mais il nous sauve pour une vie joyeuse, une vie de victoire, où on triomphe petit à petit des mauvais penchants qui sont en nous, de tous ces péchés, hein, qui sont tapis, cachés dans notre cœur. C'est une vie vécu par le Saint-Esprit. C'est pour ça que Paul disait, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc c'est une vie de victoire par Jésus-Christ. C'est pour nous, c'est sa promesse, et c'est maintenant. Mais de la même manière que les Israélites devaient, en entrant en Canaan, eh bien se battre, hein, se battre à l'époque, eh bien c'était un autre temps. Hein, nous sommes à une autre époque. Peut-être certains peuvent dire, mais comment ça, ils vont arriver, ils vont tuer des gens, c'est horrible. Alors, il faut se remettre dans le contexte. On n'est pas au 21e siècle, hein, quoique parfois certains agissent de la même manière. Hein, mais on est certes dans une période de l'histoire qui est beaucoup plus sanglante et beaucoup plus violente. Maintenant, on se dit, mais comment ça, le peuple choisi par Dieu va aller massacrer des gens? Mais comment, c'est Dieu qui permet ça? Si vous lisez la Bible, vous découvrez en fait que ces peuples-là faisaient des choses horribles. C'était des peuples qui sacrifiaient leurs enfants, qui les jetaient à Moloch. Il est jeté au feu, il est posé sur des autels brûlants. Il faisait des choses qui étaient innommables. Et c'est clairement dit dans la Bible que Dieu attend, patiente, 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 400 ans. Et finalement, il envoie Israël pour aller châtier ces peuples. Et Dieu se sert des uns, parfois, contre les autres, pour châtier le péché. Donc il ne faut pas se dire, ah, mais c'est vraiment horrible, Dieu est un Dieu injuste. Non, Dieu est un Dieu très juste. Et il juge le péché, il juge l'iniquité. Et il a voulu châtier ces peuples qui faisaient ces choses horribles. Et il a choisi de le faire par Israël. Maintenant, ça, entre parenthèses, hein, quand Israël péchait, lui aussi était châtié, hein, parce que Dieu est juste. Et donc, de la même manière que les Israélites devaient accepter d'aller se battre pour conquérir hein, ce pays de Canaan que Dieu leur avait promis depuis Abraham, ce pays d'abondance, eh bien de la même manière, le chrétien, quand il accepte Jésus-Christ, eh bien il doit aller aussi se battre hein, d'une certaine manière, non pas contre des ennemis physiques, mais plutôt contre des choses qui sont pernicieuses et en lui, contre son propre cœur, hein, presque, hein, puisque le combat, il est contre la mauvaise nature, c'est contre la chair hein, qui revient, c'est contre nos péchés, c'est contre nos mauvaises habitudes. Vous savez, vous avez une mauvaise habitude, vous savez que ce n'est pas bon pour vous, mais vous continuez. Vous savez que ça vous détruit, mais vous le faites encore et encore et encore, et vous n'arrivez pas à vous délivrer. Donc, il faut aller se battre contre ces choses. Il faut se battre en tant que chrétien contre l'esprit d'indépendance. Je fais ce que je veux. Hein? Ça revient, ça, sans cesse. Hein? On a envie de décider tout seul pour sa propre vie, sans regarder que Dieu est plus sage que nous et qu'il est meilleur de regarder eh bien, qu'est-ce qu'il attend de nous. Il faut se battre contre sa mauvaise volonté, qui n'a pas envie de faire les choses. Il faut se battre contre notre paresse. Hein? On est peut-être travailleur dans certains domaines et paresseux dans d'autres domaines quand il s'agit de la spiritualité. Il faut se battre contre notre insoumission au Seigneur, parfois contre notre rébellion, contre l'iniquité qui est dans notre vie. Et ça, c'est des ennemis qui sont réels, qui sont très concrets pour l'enfant de Dieu, pour celui qui reçoit Jésus-Christ dans sa vie. Évidemment, quelqu'un qui n'a pas Jésus-Christ, il n'a peut-être même pas envie de se battre contre ça, hein. Je suis comme ça, j'ai des défauts, acceptez-moi avec mes défauts. Hein? Mais quand on accepte le Seigneur, parce qu'on s'est repenti de ses péchés, eh bien, on veut vraiment être libéré de ce qui est mauvais en nous. Alors, eh bien, on se retrouve face à ces ennemis qui sont devant nous et qui sont comme des sangsues, hein, qui sont attachés à notre vieille nature, à nous. Paul disait, « J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien, car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. » Est-ce que ça ne vous arrive pas des fois, ça? Hein? Dans votre tête, vous dites, je sais ce qui est bien, je veux le faire. Et la réalité, c'est que vous n'y arrivez pas. Hein? Vous retombez dans les mêmes choses et vous recommencez. Et puis, bah, vous finissez par baisser les bras et dire, bah, je suis comme ça, hein? C'est tout. Hein? Et on a tous des travers. On a des faiblesses. On a des péchés qui reviennent sans cesse. Et vous savez, pour l'enfant de Dieu, eh bien, c'est souvent des habitudes qui ont été prises avant d'accepter le Seigneur. C'est-à-dire, c'est des choses qui se sont gravées en nous parce qu'on a répété. Et après, on accepte Jésus-Christ. Et puis, ces choses qui ont été répétées dans notre vie, ben, elles sont comme gravées en nous, hein, dans notre chair. Hein, et ça revient. Et c'est souvent cela contre lequel il faut lutter. Et comme ces espions, on a la promesse du Seigneur, hein, le pays de l'abondance. Dieu nous promet une vie heureuse, une vie délivrée de nos péchés, une vie où on marche avec Jésus-Christ. Hein, et en même temps, on voit ces ennemis, ces géants, ces villes fortifiées, et on se dit, mais je ne vais jamais y arriver. C'est impossible. Comment les vaincre? Et souvent, on s'y frotte, et c'est la défaite. Et ça nous décourage encore plus. Et le résultat, ben, découragement, incrédulité. On se dit, ben, je ne vais pas y arriver, je ne peux pas. Parfois, c'est même le désespoir. On est désespéré. Et on finit par se dire, ben, peut-être je suis chrétien, mais la marche avec Jésus-Christ, c'est impossible. Ce n'est pas possible. Dieu nous demande des choses qui ne sont pas possibles. Verset 30. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, « Montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. » Et parmi les espions, il y avait deux hommes qu'on pourrait qualifier de spirituels. Deux hommes spirituels parce que eux, ils avaient foi. Ils voulaient entrer de tout leur cœur dans ce pays merveilleux que Dieu leur promettait. Alors, eh bien, Caleb va faire trois choses. D'abord, il fait taire le peuple qui est en train de murmurer. Et si on veut avoir la victoire, ben il faut commencer par là. Il faut faire taire les murmures qui sont parfois dans notre cœur. Hein. Ça ne sert à rien de se décourager, de se ressasser des pensées de découragement. Hein. Dieu ne nous place pas devant un beau pays et puis on ne peut jamais y rentrer. Ce n'est pas possible ça. Ça ne ressemble pas à Dieu. Ensuite, Caleb va oser croire en Dieu. Qu'est-ce qu'il dit? Montons, emparons-nous du pays. En fait, il y croit, parce que Dieu l'a dit. Et si Dieu l'a dit, alors il va le faire. La promesse, elle est là, elle est devant eux. Et puis, Caleb va proclamer la victoire. Il dit, nous y serons vainqueurs, c'est sûr. Ça, c'est la foi hein, qui a mené tout en haut, hein. La foi, c'est croire ce que l'on ne peut pas voir avec nos yeux. Par exemple, nous croyons en Jésus-Christ. Nous ne le voyons pas avec nos yeux. Mais on est certain, on est sûr, il va revenir nous chercher. Et il nous a sauvés. Ça, c'est la foi. Eh bien, de la même manière, Dieu nous donne des promesses, un pays d'abondance, de liberté, délivré de nos péchés. Et j'y crois. J'y crois. Il faut que j'y croie. Puisque Dieu le dit. L'apôtre Jean dit, la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Il faut le croire. Il ne faut jamais cesser d'y croire. Hein. C'est vrai, c'est possible. Et c'est pour maintenant. On n'a plus à vivre dans une vie d'esclavage, dans la défaite et dans la misère d'une vie charnelle. Dieu ne nous a pas sauvés pour cela. Mais il faut entrer maintenant dans ce pays promis. Il faut saisir la victoire qu'il nous donne. Alors, versets 31 et 33, il va y avoir un retour de nouveau de ces hommes incrédules. Verset 31, « Mais les hommes qui y étaient allés avec lui dirent, « Nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. » Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, « Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes de haute taille. Et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. » Et là, vous dites, l'incrédulité a un effet dévastateur. L'incrédulité nous détruit en fait, ne nous fait pas du bien. Et les mêmes arguments reviennent et reviennent sans cesse. Hein. On ne peut pas monter contre ce peuple, il est plus fort que nous, le pays dévore ses habitants, ce sont des géants, nous sommes des sauterelles. Donc, c'est impossible, impossible. Même pas la peine d'essayer. Et c'est vrai. On se dit parfois, mais mes péchés sont trop nombreux. J'ai trop de mauvaises habitudes. C'est trop ancré en moi. La chair est trop forte et trop puissante. Et en tant qu'enfant de Dieu, on est parfois comme ça, défaitiste, comme les 10 espions. On n'y croit pas, on n'y croit plus. Nombre 14, versets 1 à 4. Toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris. Et le peuple pleura pendant la nuit. Tous les enfants d'Israël murmurèrent contre Moïse et Aaron. Et toute l'assemblée leur dit, « Que nous sommes-nous morts dans le pays d'Égypte ? Ou que nous sommes-nous morts dans ce désert ? Pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie ? Ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte ?» Et ils se dirent l'un à l'autre, « Nommons un chef !» Et retournons en Égypte. Incroyable, hein ? Qu'est-ce qui se passe ? C'est un profond découragement. Je jette l'éponge. C'est fini. Je jette l'éponge. Ils ont même pleuré pendant la nuit. On n'est pas loin d'une dépression, là. Hein ? Il dit, que ne sommes-nous morts dans le pays d'Égypte ? Voilà. Je préfère la mort. Je préfère la mort. Et c'est ce qui se passe parfois. Quand un chrétien n'arrive pas à marcher avec le Seigneur, quand il voit les géants et qu'il se dit que la vie chrétienne est impossible, parfois, il retourne vers l'Égypte. Il retourne vers le monde. Il replonge dans les choses du passé. Et c'est la rechute. Et c'est de nouveau l'esclavage. On retombe. Et c'est ce qui se passe pour certains chrétiens, vraiment, qui ont accepté Jésus-Christ. Mais il y a une marche arrière, parce qu'à un moment, il y a eu un profond découragement. Et on retombe, on peut donner un nom, dire un chrétien rétrograde. Voilà, je rétrograde, je pars en arrière. Alors, je vous pose la question, est-ce que vous êtes un chrétien qui fait demi-tour ou qui a fait demi-tour ? Un chrétien qui retourne aux vieilles habitudes, aux péchés d'antan. Parce que vous pensez et vous dites, mais la vie chrétienne, c'est pas possible. Dieu nous demande quelque chose qui est au-delà de nos forces. Et on n'y croit plus. Mes péchés sont trop nombreux. Nombre 14, versets 5 à 9. Moïse et Aaron tombèrent sur leur visage en présence de toute l'assemblée réunie des enfants d'Israël. Et parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jéphuné, déchirèrent leurs vêtements et parlèrent ainsi à toute l'assemblée des enfants d'Israël. « Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon, excellent. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et nous le donnera. » C'est un pays où coule le lait et le miel. Seulement ne soyez point rebelles contre l'Éternel. Et ne craignez point les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâture. Ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous. ne les craignez point. Et là, vous avez la réalité. Qu'est-ce que la réalité ? C'est un pays très bon, excellent. L'Éternel nous mènera dans ce pays, il nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. L'Éternel est avec nous, ne les craignez point. Et ça, c'est la vérité. Voilà ce que Dieu dit et voilà ce qu'il faut croire. Ça, c'est la vérité. Mais, verset 10, toute l'assemblée parlait de les lapider. Et heureusement, Dieu va intervenir et arrêter ça lorsque la gloire de l'Éternel apparut sur la tente d'assignation devant tous les enfants d'Israël. Il parlait de les lapider. Et ici, c'est en image, toujours, c'est la chair qui s'oppose à l'esprit. C'est l'incrédulité qui s'oppose à la foi. C'est la rébellion qui s'oppose à l'obéissance au Seigneur. Alors, on ne va pas lire tout le passage, mais quand Dieu va voir ce qui est dans le cœur de ces hommes, il va vouloir les châtier, les punir. C'est incroyable. Il vient de les sortir de l'Égypte en faisant des miracles. Et puis, ils sont aux portes du pays de la promesse et ils rejettent leur Dieu. Je préfère retourner dans le monde. Donc, Dieu va vouloir les châtier. C'est Moïse qui va plaider. Seigneur, pardonne-leur. Pardonne-leur. Pourquoi ? Parce que tes ennemis vont dire, mais regarde, c'est parce que tu n'avais pas la force, la puissance, la capacité de les amener dans le pays de Canaan, alors il les a exterminés dans le désert. Alors, bien sûr, on se dit, mais c'est incroyable la capacité que l'homme a pour pouvoir changer la pensée de Dieu. Moi, je ne pense pas. Je pense quand même que Dieu savait toutes choses et qu'il il reste souverain sur les circonstances. Dieu a pardonné à ce peuple d'Israël, là, mais quand même, il va leur dire quelque chose. Il va prendre une décision, c'est d'empêcher la génération incrédule, en tout cas, de pouvoir goûter à ce pays de Canaan. Donc, on va lire Nombre 14, versets 26 à 32. Nombre 14, versets 26 à 32. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit « Jusqu'à quand laisserai-je cette méchante assemblée murmurer contre moi ? J'ai entendu les murmures des enfants d'Israël qui murmuraient contre moi. Dis-leur, je suis vivant, dit l'Éternel, je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. Vos cadavres tomberont dans ce désert, vous tous dont on a fait le dénombrement, en vous comptant depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, et qui avez murmuré contre moi. » Vous n'entrerez point dans le pays que j'avais juré de vous faire habiter, excepté Caleb, fils de Jephunné, et Josué, fils de Nun. Et vos petits-enfants, dont vous avez dit « ils deviendront une proie », je les y ferai entrer, et ils connaîtront le pays que vous avez dédaigné. Vos cadavres, à vous, tomberont dans le désert. Et vos enfants paîtront 40 années dans le désert et porteront la peine de vos infidélités jusqu'à ce que vos cadavres soient tous tombés dans le désert. » Qu'est-ce que Dieu leur dit ? Il dit, vous allez mourir dans le désert. Voilà. Vous ne voulez pas rentrer ? Très bien. Faites demi-tour et vous allez mourir dans le désert. Vos cadavres tomberont dans le désert. Donc, ils ont tourné. Dieu a été fidèle dans le désert. Il a pourvu à leurs besoins. Il a veillé sur eux. Leurs chaussures même ne s'usaient point. Il a fait des miracles pour eux, mais vous allez rester dans le désert. Vos cadavres tomberont dans ce désert. Et on peut faire encore une application, une image, celle que ça suggère, c'est que l'homme rebelle, l'homme incrédule, l'homme charnel, il n'entre pas dans le pays promis. Il ne peut pas y entrer. Et même bibliquement, c'est impossible. Il doit mourir. La chair ne peut hériter la vie éternelle. C'est une vérité. Et on voit ça dans toutes les Écritures. La chair, la mauvaise nature qui est en nous, qu'est-ce qu'elle doit faire, elle ? Elle doit être crucifiée. Elle doit mourir. Pour entrer dans le pays de l'abondance, le pays de la promesse, le pays de la marche par l'esprit, il faut que la chair elle soit en croix, morte. Il n'y a pas d'autre solution. Regardez, je vais vous lire plusieurs textes. Qu'est-ce que Paul dit ? Faites donc mourir ce qui dans vos membres est terrestre, la débauche, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité qui est une idolâtrie. Il dit encore, ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Encore il dit, vous êtes morts, votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Et puis, ce texte, j'ai été crucifié avec Christ, encore une fois. Donc, on parle bien d'une mort ici. Hein. Et si on aspire à la délivrance du péché, si on veut être libéré de nos mauvaises habitudes, de nos passions, de nos faiblesses, de nos défauts, il n'y a qu'un seul chemin, ben, il faut mourir. C'est-à-dire, il faut renoncer à vivre sa vie hein, dans la chair, dans le péché. Il faut renoncer chaque jour, accepter d'être crucifié avec Christ et ne plus vivre dans la désobéissance. Alors, qui va entrer dans ce pays de Canaan ? C'est la nouvelle génération. La nouvelle génération. Et là, eh bien, il y a comme une image du nouvel homme, en fait. Hein ? Quand Jésus-Christ nous sauve, ben, il y a la vieille nature qui est là, et Christ vient régénérer notre esprit et nous donner une nouvelle nature. Donc il y a l'ancienne et la nouvelle. Qui rentre dans le pays de la promesse ? Mais c'est la nouvelle nature. C'est elle qui va vivre ce pays de l'abondance. Celui qui est en Jésus-Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Ça, c'est la promesse. Et donc, c'est l'homme nouveau qui marche avec le Seigneur, qui entre en Canaan. Et le vieil homme, lui, il ne peut pas rentrer. Impossible. Le rebelle, eh ben, il doit mourir. Il n'y a pas d'autre solution. D'ailleurs, c'est intéressant parce que on voit que tous ces rebelles-là qui murmuraient contre le Seigneur, une fois qu'ils entendent Moïse qui commence à dire ce qui va se passer, « On va y aller, on va y aller !» Ils se disent, hop, ils commencent à monter sur la montagne en disant, « On va au pays de Canaan, on y va !» Mais on y va sans le Seigneur. Hein. C'est toujours le péché, c'est toujours la chair. Hein. Et là, c'est la défaite. Hein. Ils se font massacrer. Ils se font massacrer. Et la chair, elle ne peut pas vaincre le péché. La chair est amie du péché. Donc on n'arrivera jamais à triompher par la chair. Il faut mourir et vivre par l'esprit. Il n'y a que comme cela qu'il y a une victoire. Accepter de mourir. Donc, ben, je renonce à ma vie, Seigneur. Je crois en toi. Je suis mort. Je suis mort et maintenant je veux que tu vives en moi, s'il te plaît. Vis par ton esprit en moi. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et je vis maintenant dans la foi au Fils de Dieu. Donc je te fais confiance, Seigneur, libère-moi de la chair, elle est morte, et je vis pour toi. Alors, eh bien, on laisse le champ libre pour que Dieu vive en nous et nous mène vers cette victoire en Jésus-Christ. Et quand on fait ça, eh bien, ça y est, on commence à marcher par l'Esprit et on entre dans le pays de la victoire. On goûte à la victoire. Alors les rebelles, eh bien, ils ont tourné 40 ans dans le désert et ils ont attendu finalement qu'un jeune homme grandisse et devienne un homme. C'est qui ? C'est Josué. Josué qui est devenu un homme mûr. Et Josué, il va les amener dans le pays de Canaan. C'est le livre de Josué dans la Bible hein, que vous pouvez lire. Josué, c'est quoi ce nom ? La racine, c'est Joshua. Hein. Joshua, eh bien, c'est Yeshua, c'est Jésus. La racine, c'est Jésus. C'est Jésus, entre guillemets, qui va les mener au pays de Canaan. Qui nous mènera, nous, au pays de Canaan ? Qui nous mènera au pays de la délivrance de nos péchés ? Ben, c'est Jésus. Si on s'attache à Jésus, si on fixe les yeux sur lui, et on dit « Seigneur, vis en moi », alors eh bien, il nous conduit au pays de la victoire. Ça ne veut pas dire que c'est facile. Ça ne veut pas dire que c'est facile. Et que ça se fait en un seul jour. On aimerait bien. J'entre en Canaan et ça y est, je vis dans la paix et la délivrance. Non, ça ne se fait pas en un seul jour. Hein. Et les Juifs ne sont pas entrés en Canaan et puis ont pacifié le pays en un jour. Hein. Ça a été long. Ça a pris du temps. Hein. Mais ils vainquirent leurs ennemis. Et c'est petit à petit. Victoire après victoire. Voilà, ils sont avancés dans le terrain, et puis une ville, de ville. Et nous, c'est pareil. On entre dans la vie avec le Seigneur, dans la vie abondante, et c'est petit à petit, un péché, un autre, un autre, un autre. Au départ, Dieu s'occupe de ce qui est comme le nez au milieu de la figure. Vous savez, vous avez des péchés, c'est une évidence. Même le monde le voit. Même le monde. Si vous dites que vous êtes chrétien, ils disent « Ah bon, t'es chrétien et tu fais ça, toi ?» Donc, c'est une évidence. Donc, Dieu s'occupe d'abord de ça. En disant ça, c'est les premières villes que tu vas faire tomber. On élimine ça. Marche avec moi. Je te donne la victoire. Et puis après, Dieu commence à s'occuper des autres péchés. De ceux qu'on ne voit pas forcément. Et même que nous, on ne s'en aperçoit même pas. Parfois, on se dit « Bon, ça va ?» Puis hop, Dieu commence à dévoiler un peu notre cœur. Oula, j'ai encore ça ? Ah, j'avais pas vu ça. Ah, c'est vrai, Seigneur, je suis jaloux. Ah, Seigneur, c'est vrai, je suis un peu hypocrite là. Ah, Seigneur, et puis on va dans les détails. C'est ça la sanctification. C'est Dieu nous sanctifie petit à petit, ville après ville. On avance. Regardez, c'est intéressant parce que Dieu le dit. Dans la réalité, c'est Deutéronome 7, verset 22, où nous sommes toujours dans l'histoire d'Israël qui fait la conquête du pays. Deutéronome 7, verset 22. Il dit « L'Éternel, ton Dieu, chassera peu à peu ces nations loin de ta face. Tu ne pourras pas les exterminer promptement, de peur que les bêtes des champs ne se multiplie contre toi. » Donc là, c'est un conseil et c'est la sagesse de Dieu qui fait quelque chose de très pratique. Évidemment, hein, si vous exterminez du monde, etc., et voilà, c'est horrible, hein, mais il va y avoir des épidémies, il va y avoir des bêtes, il va y avoir des... etc. Donc Dieu dit, ça sera petit à petit, petit à petit, petit à petit. Mais derrière, eh bien, ce fait historique, eh bien, il y a aussi cette image, hein, c'est que nous, c'est pareil. Petit à petit, on vainc un péché, un autre, un autre, un autre. Mais on a l'assurance de la victoire. Regardez le verset suivant, verset 23, Deutéronome 7, 23. « L'Éternel, ton Dieu, te les livrera, et il les mettra complètement en déroute, jusqu'à ce qu'elles soient détruites. » Et on n'a pas le droit de douter du Seigneur. On n'a pas le droit de se dire, mais ce péché-là, Seigneur, tu ne peux pas m'en délivrer. Non, Dieu peut le faire. De même qu'Israël, avec Josué, est venu à bout du pays de Canaan, et même les géants sont tombés, sont tous tombés. Et Dieu nous donnera la victoire sur tous nos péchés. Ça ne veut pas dire qu'un jour, ça y est, il y a une auréole, je suis saint. Et là, plus personne ne peut plus rien voir en moi. Je suis... Vous voyez comme je brille ? Non, non. Dieu laissera toujours un petit truc. Hein. Il nous rendra saints le jour où il nous emmènera dans l'éternité avec lui. Alors là, on sera libérés de tous nos péchés. Mais en attendant, on est dans la progression. Donc on est censé se sanctifier par l'Esprit. Hein. Mais il restera toujours quelque chose, je vous rassure. Mais Dieu permet quand même qu'on vive une vie victorieuse quand on marche avec Jésus-Christ. Il le permet. Une vie spirituelle. Une vie qui est dépendante du Seigneur. Où c'est Jésus qui vit en nous. Et quand Jésus vit en nous, ben les fleuves d'eau vive coulent. On fait du bien. Notre parole fait du bien. Et on marche, vraiment. Ça veut dire que je ne suis pas sans cesse en train de tomber ici et tomber là et se pécher. Non, il veut nous faire marcher. Ça veut dire que parfois, je tombe, pardon Seigneur, libère-moi. Mais la plupart du temps, je marche. Et je marche avec lui, dans la sainteté. Jésus a dit, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle ait en abondance. Donc c'est de ça dont il parle. Ça, c'est sa promesse. Mais il faut accepter de mourir, de renoncer, d'obéir et de croire. Croire. 1 Pierre 4, versets 1 et 2. 1 Pierre 4, versets 1 et 2. Il dit ici, « Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi, armez-vous de la même pensée. Car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché, afin de vivre non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu, pendant le temps qu'il lui reste à vivre dans la chair. Alors, quand vous regardez le verset 1, 1 Pierre 4, 1, que nous venons de lire, de quelle souffrance Pierre est-il en train de parler ? En fait, il est en train de parler de la souffrance qu'occasionne la bataille. Il y a une bataille, il y a un combat. C'est le combat contre le péché. Il faut renoncer à soi-même. C'est dur ça, hein ? Vous savez, renoncer à sa volonté. Renoncer au péché. Et il faut renouveler sans cesse, sans cesse. Donc, il y a une lutte. Je ne veux pas céder à cette tentation. Je sais que c'est mauvais pour moi. Je ne le veux pas. Et marcher avec le Seigneur. Et ça, c'est difficile. Mais il dit que celui qui a souffert dans la chair, il en a fini avec le péché. Fini avec le péché. C'est beau, ça. C'est-à-dire que celui qui veut entrer dans le bon pays, le pays de l'abondance, et qui est prêt à combattre tous ses ennemis, tous ses péchés, eh ben, c'est celui qui accepte de passer par cette souffrance. Parce que c'est dur. Mais je l'accepte, je le veux. Eh bien, après, il en a fini avec le péché. Fini avec le péché. À un moment, le Seigneur va pacifier sa vie. Comme le pays de Canaan était pacifié, de la même manière, à un moment, c'est la paix. Et on marche. Et on va bien. Et à ce moment-là, c'est Christ qui vit en moi. C'est plus moi qui vis. C'est ce que Paul nous explique en Galates 2:20. C'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc je suis libre, libre de mon péché. Et on reste debout avec le Seigneur. Et on marche. Et si on chute de temps en temps, on se relève tout de suite. Et on continue à marcher avec le Seigneur. Verset 2, il dit « Afin de vivre, non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu, pendant le temps qui lui reste à vivre dans la chair. » C'est vraiment important ça à comprendre. C'est que cette promesse, c'est pas pour le ciel, c'est pour ici, pendant le temps qui lui reste à vivre dans la chair. Et c'est la paix, c'est le repos, c'est la victoire. C'est la vie abondante. C'est de cela dont le Seigneur nous parle en Hébreux 4. Cette semaine, on a vu un petit peu Hébreux 4. Quand le Seigneur dit que pour nous chrétiens, il faut que nous entrions dans ce repos de sabbat qui est réservé au peuple de Dieu. Il parle du repos de sabbat en Hébreux 4. Et c'est le repos d'une vie qui est consacrée. D'une vie où Jésus vit en nous par l'Esprit. Et dans l'Épître aux Hébreux, regardez, Dieu nous met en garde. Hébreux 4, et on va lire les versets 1 et 2 pour commencer. Hébreux 4, versets 1 et 2. Il dit, « Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard, car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas la foi chez ceux qui l'entendirent. » Et Dieu leur avait dit, « Vous pouvez entrer dans le pays de Canaan, je vous le donne, c'est le pays de l'abondance. » Et ils n'ont pas cru, ils n'ont pas voulu, ils ont fait demi-tour. Pourquoi ? Parce que ce qu'ils avaient entendu ne trouva pas la foi chez ceux qui l'entendirent. C'est-à-dire qu'on entend la parole de Dieu et puis on écarte. Alors que d'autres entendent la parole de Dieu et ils croient. Dire mais c'est juste, ça sonne vrai. Il y a quelque chose qui me dit c'est la vérité. Est-ce que la parole de Dieu suscite la foi dans notre cœur ? C'est ça. Et s'il y a la foi, alors eh bien je m'avance. Alors eh bien, elle ne trouva pas la foi chez ces Juifs qui n'ont pas voulu rentrer dans le pays de Canaan. Alors Dieu réitère la même parole pour nous aujourd'hui. Mais la différence, c'est que il était question d'entrer dans le repos qui était ce pays de Canaan, qui était une image. Et nous, il s'agit d'entrer dans la réalité qui est la vie en Jésus-Christ, le vrai repos de la foi. C'est dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. C'est ça le vrai repos. Alors versets 7 à 10. Dieu fixe de nouveau un jour, aujourd'hui, 10 ans dans David, si longtemps après, comme il est dit plus haut. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Car si Josué leur eut donné le repos, ils ne parleraient pas après cela d'un autre jour. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. Efforçons-nous donc d'entrer dans son repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Voilà, ce qui avait été dit aux Israélites, nous l'est dit à nous aujourd'hui. Et Dieu nous promet un repos. Et le vrai repos, c'est en Jésus-Christ. Alors qu'est-ce qu'il faut ? Eh bien, il ne faut pas rester à terre. Si on est enfant de Dieu, si on est chrétien, ben, il faut se relever. Il faut y croire, hein ? Croire à cette vie que Dieu nous donne. Et entrer par la mort et par la foi. Il faut arrêter de vivoter dans la vie chrétienne et clocher des deux côtés, mais entrer vraiment dans ce que Dieu nous donne. Et c'est offert à tout homme, en fait. Cette promesse, hein, ce pays de Canaan, par la foi en Jésus-Christ, c'est offert à tout homme. Il est dit, hein, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Crois au Seigneur Jésus et l'Esprit, en fait, va entrer dans ton cœur. Tu vas te réconcilier avec Dieu et tu entreras dans ce pays de Canaan. C'est un très bon pays, excellent. Et l'Éternel nous mènera dans ce pays et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. L'Éternel est avec nous, ne les craignez point. On va avoir un moment de prière, je pense. Donc, si vous voulez élever la voix, eh bien, vous pouvez le faire librement, chacun à votre tour.